Bonsoir, vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi, animée cette semaine par des militants altermondialistes de l'association ATTAC et du journal Le Piaf. Aujourd'hui, nous allons parler de Palestine en recevant une personne venant directement de Palestine où elle travaillait pour une organisation non-gouvernementale, une ONG. Et auparavant, nous allons faire quelques petites chroniques d'actualité avec tout d'abord Alex, qui va nous parler de Chypre et plus globalement d'une question assez fondamentale finalement aujourd'hui. L'euro rend-il heureux ?
Oui, alors l'euro rend-il heureux ? C'est la question qu'on peut se poser après le sauvetage de Chypre. Alors le sauvetage de Chypre, ça a été, on a assisté au dernier épisode d'un feuilleton consternant qui dure depuis le déclenchement de la crise. Le scénario bien rodé qu'on connaît, des banques incapables de faire face à leurs créanciers font appel aux États. Les États sont alors bien embêtés, car d'habitude, ils empruntent justement aux organismes financiers, dont les banques, pour enflouer leurs propres caisses. Dans la zone euro, les États ont très peu de liberté d'action, ça on le sait. Ils ne peuvent pas imprimer davantage de billets ou dévaluer leur monnaie. En revanche, ils peuvent se tourner vers les institutions européennes qui, contre une aide financière, leur imposent un remède de cheval appelé austérité. On a vu ce scénario se répéter en Grèce, au Portugal, en Irlande, en Espagne. On a pu constater à chaque fois qu'il se termine en cauchemar pour les pays concernés. Amaigrissement des aides sociales, augmentation des taxes, gel des salaires. Et les chiffres du chômage s'envolent, tout comme celui du nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté. C'est ce même genre de potion magique qui a ruiné l'Argentine dans les années 90. Pour Chypre, les contreparties exigées à ce plan d'ajustement sont particulièrement drastiques. Alors que les 17 milliards demandés par Chypre ne représentent qu'à peine plus d'un millième du PIB de la zone euro, on ne leur en accorde que 10. Les 7 milliards restants seront prélevés sur les comptes des clients des banques chypriotes possédant plus de 100 000 euros. Alors c'est important ces 100 000 euros parce que c'est la valeur des dépôts garantis par la réglementation européenne en cas de faillite. Dans sa première mouture, ce plan prévoyait une taxation exceptionnelle de tous les dépôts. Heureusement, les Chypriotes ont réagi et sous leur pression, le Parlement chypriote a refusé une mesure qui était non seulement profondément injuste, mais aussi, très curieusement, en total désaccord avec l'objectif affiché de l'Union européenne depuis le début de la crise de défendre les épargnants à tout prix. Si on prend l'exemple de l'Islande, Chypre aurait sans doute intérêt à prendre le large, c'est-à-dire à quitter l'euro. Ayant refusé de rentrer dans l'Union européenne, l'Islande a pu dévaluer sa monnaie, ce qui est quand même le meilleur moyen de retrouver de la compétitivité. C'est aussi payer le luxe de refuser de garantir les dépôts des clients non résidents en dépit des pressions européennes. Elle n'a pas mené de politique d'austérité, connaît aujourd'hui un redémarrage économique spectaculaire avec une progression du PIB pour cette année de 3%. Mais surtout en Islande, et c'est ça le plus important, c'est le peuple souverain qui a choisi la politique économique qui lui convenait et pas les représentants de l'Union européenne ou de la Troïka, qui est malheureusement très peu démocratique. Alors sortir de l'euro rendrait-il heureux ? La création d'une monnaie commune est une avancée historique sans précédent à l'échelle d'un continent. C'est un témoin d'unité qui permet d'effacer quelque peu des frontières qui ont causé des siècles de guerre. Donc c'est pas tant la monnaie unique qui entraîne cette crise que le fonctionnement entêté des dirigeants de la zone euro incapables de prendre des décisions politiques. L'Europe est riche, le système financier aujourd'hui permet à un pays comme la France d'emprunter de l'argent à des taux historiquement bas. Tout indique qu'il est possible de vivre demain aussi grassement en Europe qu'il y a quelques années. Mais d'autres solutions économiques et politiques sont possibles. Par exemple, la Banque centrale pourrait directement prêter de l'argent aux États. Ou plus simple encore, un État pourrait décider de ne pas rembourser la partie illégitime de la dette. C'est-à-dire, par exemple, la dette contractée pour alléger les taxes des grandes entreprises qui pour enflouer justement ces banques qui sont à l'origine de la crise. Et là, on revient au point de départ. Voilà.
On revient au point de départ. C'est un petit peu le thème lancinant de cette crise. On met de l'argent, puis il faut remettre de l'argent, puis il faut remettre de l'argent, etc. Alors, dans les nouvelles de la semaine, il y en a eu des tristes, vu qu'on a eu des décès cette semaine. Et un décès très triste, c'est celui du dessinateur Fred. Patrick.
Oui, j'espère que beaucoup d'entre vous le connaissent, parce que curieusement, quand je demandais à des gens, vous connaissez Fred, moi j'adore Philémon, toute sa série, Fred, ah oui, vaguement, il n'a pas été dans Harakiri ou Charlie Hebdo, oui, voilà, mais il était relativement, enfin, très relativement méconnu, alors que pour moi c'est vraiment le plus grand. C'est le plus grand parce que il accumulait absolument tous les dons, l'habileté du dessin, la richesse des couleurs, et puis il maniait le langage avec humour et avec poésie, et il avait le chic pour mettre les délires du fantastique au service d'une critique féroce de tous les maux de notre société. Et par exemple, là, c'est pas dans la série des Philémon, mais l'avant-dernier à peu près de ses albums, le Corbac au basket. où on voit un corbeau, donc chaussé de baskets, qui raconte au psychiatre comment il s'est entendu dire qu'un corbeau avec des baskets, c'est un corbeau qui cherche à s'intégrer. Ça commence par des baskets, après c'est la cravate, ils rasent leurs plumes et cessent de raser les murs, et hop, et voilà comme nous les corbeaux. Pas besoin de faire un dessin. Ben si, celui de Fred qui est irremplaçable. Et surtout, alors, ne ratez pas Le train où vont les choses, un titre tout à fait à la Fred. C'est son tout dernier album. Et vous savez que, de toute façon, c'est le dernier.
Ouais, et je rajouterais quand même, ne ratez pas le numéro d'avril du Piaf où vous trouverez un superbe dessin de Patrick en hommage à Fred.
Alors, question hommage, il y a aussi un dessin sur Margaret Thatcher qui nous a quitté cette semaine. Ce dessin, c'est un cercueil en fer qui a une couronne où il y a marqué « À notre mère » et c'est signé « Les victimes de la crise ». Et oui, Margaret Thatcher était peut-être une des créatrices de cette crise actuelle en allant vers un libéralisme absolu. Mais Gaël va nous en dire un peu plus sur Thatcher.
Et oui, une des dernières admiratrices de Pinochet est morte. Margaret Thatcher disparaît au sommet de sa gloire puisque tout ce pourquoi elle avait œuvré, les paradis fiscaux, la déréglementation du commerce, le capitalisme débridé, est tristement d'actualité. Margaret Thatcher, c'est l'apologie du chacun pour soi, la répression antisyndicale et surtout, comme le soulignent tous ses élateurs, une détermination sans faille. En 1981, elle n'avait pas cédé face aux 10 militants républicains irlandais qui faisaient une grève de la faim pour réclamer un statut de prisonnier politique. Et ils étaient morts, tout simplement. Alors, en hommage à la Dame de Fer, une chanson s'impose.
Bonsoir, vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission Mode d'emploi, animée cette semaine par une équipe d'altermondialistes issus de l'association Attac et du journal Le Piaf. Et je laisse la parole à Alex pour la grande interview de l'émission.
D'accord, alors aujourd'hui nous recevons Anna Carizo, elle a travaillé pendant 3 ans à Gaza pour 2 associations humanitaires et il nous a semblé intéressant d'entendre son témoignage sur la vie ordinaire à Gaza et l'ambiance qui y règne dans cet endroit un petit peu confiné, on va dire. Alors déjà, première question, c'est quel travail tu faisais là-bas, concrètement ?
Bonsoir déjà, merci. Du coup, avec cette association, je parlais surtout avec la dernière association, donc j'étais responsable du bureau à Gaza, donc de la mission à Gaza pour cette association. Donc en charge de la gestion de projets, ça va des ressources humaines jusqu'à tout ce qui est administratif et logistique. Si on parle un peu plus en termes de programme, en fait, cette association donc médicale, suite à l'opération militaire de Kasslin en fin 2008, a voulu se concentrer sur un programme de préparation aux urgences. Donc, l'objectif était d'améliorer en fait l'accès aux soins d'urgence durant des périodes de conflit ou de guerre, et ce en décentralisant ses compétences dans des centres de soins de santé primaire. Donc cette association, depuis 2009, a construit 11 centres, 11 salles d'urgence dans toute la bande de Gaza, avec équipements médicaux, des médicaments et de la formation de professionnels, donc médecins ou infirmières. Et depuis 2011 et 2012, en partenariat avec une autre association, on s'est concentré sur le gouvernorat de Khan Younis, dans la bande de Gaza, pour être plus en lien avec les hôpitaux et faire en sorte que donc ces centres décentralisés soient intégrés dans le système public, en fait. Et en parallèle, il y a eu tout un volet de formation communautaire au premier, de soins de premier secours, si on peut dire ça comme ça, pour avoir un réseau de volontaires qui soient mobilisables durant une guerre assez rapidement auprès de la population.
Mais dans ce domaine sanitaire, c'est quoi les besoins principaux des Gazaouis ?
Alors, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de structures, qu'elles soient privées ou gouvernementales, en termes de soins de santé primaires et spécialisés. Le problème est que depuis le blocus en vigueur depuis 2007, on observe une dégradation continuelle en fait du système de santé publique. Donc à l'heure actuelle, on va surtout parler de rupture de fréquente de stock de médicaments essentiels, de consommables ou de carburant. Pour vous donner un petit chiffre, sur l'année dernière, on était au niveau de la pharmacie centrale du gouvernement à 42% de médicaments essentiels qui étaient en rupture de stock et à peu près 13% qui étaient en quantité insuffisante. On parle aussi de besoins de réhabilitation des infrastructures. À l'heure actuelle, on a à peu près 50% des hôpitaux qui ne sont pas à même de délivrer un service de santé de qualité. On a énormément de problèmes par exemple, de recyclage de déchets médicaux. Donc, il y a des tonnes et des tonnes de déchets qui sont jetés dans la ville, dans la mer. Donc, ce qui pose des problèmes environnementaux. Merci. On a un manque de ressources humaines aussi, au niveau des structures de santé. Et puis aussi, surtout, les médecins, les infirmières ont des difficultés pour sortir de la bande de Gaza pour avoir accès à des formations techniques spécialisées ou des séminaires. Donc on parle par exemple de maladies cardiovasculaires ou de neurochirurgie. Et puis aussi, quand un hôpital ou une clinique a besoin de fonctionner, on a besoin de carburant, de pièces qui soient renouvelées. Et avec le blocus, c'est pas possible.
Et est-ce que dans ce travail humanitaire, toi et ton organisation, vous avez rencontré des difficultés particulières liées au fait d'être à Gaza, notamment ?
Alors, je dirais qu'en tant qu'humanitaire, on a beaucoup de restrictions de mouvement par les autorités israéliennes. En fait, pour obtenir les autorisations militaires, ça peut prendre des mois. Donc quand on a un programme à mener, ça peut être compliqué de gérer un projet à distance. Ou ça peut être tout simplement problème de faire entrer les équipements. Donc soit des médicaments, soit du matériel médical dans la bande de Gaza.
Et le Hamas, il vous pose des problèmes ou pas ?
Alors, tout est une question
de... Parce qu'on dit tellement de choses sur le Hamas.
De degré. On va dire qu'il y a beaucoup de barrières administratives au niveau du Hamas. C'est-à-dire que le Hamas accueille volontairement les organisations internationales. Après, en fonction du degré de coopération des organisations, le Hamas va être plus ou moins accueillant ou demander plus ou moins de choses. Donc, ce qui est vrai à l'heure actuelle, c'est que on a une volonté du gouvernement de contrôler de plus en plus ce que font les organisations internationales, ce qui est normal d'un certain côté, étant un gouvernement, une autorité légitimement élue par son peuple. Mais du coup, beaucoup de barrières administratives pour les organisations, en fait. Après, de manière plus générale, je dirais pour les organisations internationales, la difficulté à Gaza à l'heure actuelle sont les manques de ressources et de financement. Parce que les bailleurs de fonds ont tendance... c'est un conflit qui dure depuis 50 ans. On est à Gaza sur une situation de crise chronique humanitaire, mais pas une situation d'urgence. Et du coup, les bailleurs ont tendance à se désinvestir. Et ce qui fait qu'on est obligé de réduire les programmes ou de partir de la bande de Gaza.
Alors, ce que j'ai un petit peu l'impression, finalement, c'est qu'on parle beaucoup d'Israël, de Gaza dans les médias. La réalité de terrain, c'est pas finalement des tonnes d'ONG qui se bousculent pour aider, c'est des manques de moyens réels, c'est un vrai souci quotidien d'arriver à amener l'aide humanitaire. Pourtant, tout le monde a les yeux braqués. On imagine que l'argent pourrait affluer.
Il y a un peu des deux. En fait, il y a énormément d'associations, que ce soit des associations internationales ou locales, parce qu'il y a une grande société civile à Gaza. Donc on peut parler plus de 500 organisations sur un petit bout de terre. Donc c'est assez énorme. Mais par contre, le montant des ressources allouées est restreint. Donc effectivement, ça va être un peu une bagarre. Et on peut arriver aussi à certaines incohérences. Par exemple, on a beaucoup d'ONG américaines qui sont à Gaza, financées par le gouvernement américain, mais qui ont des contraintes très strictes par rapport au gouvernement en place et avec une no contact policy, comme on dit en anglais, où par exemple l'association ne pourra pas acheter un simple stylo dans la bande de Gaza. Par contre, il devra l'acheter en Israël. Mais avec le blocus, il vous faut faire tout un processus administratif qui va durer 3 à 4 mois. Donc on devient à des aberrations alors qu'il y a de l'argent, mais l'argent ne peut pas rentrer si facilement que ça. Et donc, on a des programmes, par exemple, de reconstruction ou tout simplement qui ne se mettent pas en place parce que les matériaux sont interdits à l'import dans la bande de Gaza, alors qu'il y a des millions débloqués pour. Donc ça devient une situation un peu absurde.
Alors cette absurdité, on verra peut-être tout à l'heure si elle est un petit peu une volonté politique de certains organes, on imagine un peu, mais finalement, on peut dire que vis-à-vis de France, là où on t'écoute calmement, assis dans nos fauteuils, on imagine finalement un peuple assiégé, emmuré, et la réalité même pour les gens qui viennent aider, c'est ce même mur et c'est ce même emprisonnement.
De fait, oui. Comment dire ? C'est-à-dire qu'en tant qu'expatrié pour une organisation internationale, on a une liberté de mouvement qui est beaucoup plus grande, puisqu'on a des autorisations, si on les obtient, et elles sont difficiles à obtenir dans certains cas. Mais effectivement, des barrières au quotidien, au niveau administratif, pour pouvoir mettre en place ces programmes, quels qu'ils soient. Hein. Je parle de reconstruction, mais c'est valable aussi dans le secteur de la santé, au niveau agriculture. Et au-delà de ça, j'étends un peu par rapport à ta question. Tout simplement, on est dans une population où doit avoir à peu près 70% de chômage. 38% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. Et on a une économie fictive, parce que les Gazaouis produisent au niveau agriculture, avec justement des aides, des associations, mais ils n'ont pas le droit d'exporter. Par contre, l'import de produits israéliens est nécessaire, obligatoire, et voilà. Donc du coup, on a une économie qui dépend des fonds internationaux, qui est complètement sous dépendance, et qui ne permet pas à un gouvernement et à un peuple de se développer, quoi.
Et toi, à titre personnel, comment tu l'as ressenti, cette pénurie, dans la vie quotidienne ?
Alors, déjà, plus au niveau de l'électricité. On est à entre 8 et 12 heures de coupure d'électricité par jour à Gaza. Et donc, c'est quelque chose c'est une réorganisation de la vie au quotidien pour les familles et pour les humanitaires en général. Donc voilà, ce serait ça la principale chose que tu ressens au quotidien.
Alors, notre grand absent du jour, Jean-Marc, nous envoie quand même des petits messages par SMS et il signale que la misère, c'est bien beau, mais elle est quand même beaucoup moins pénible au soleil. Néanmoins, on est ici sur Radio Fréquence Paris Pluriel et une autre émission va parler de Palestine régulièrement à partir de cette semaine sur les ondes. L'émission s'appellera Écoute Palestine. Elle a lieu une fois par mois de 19h à 20h30 tous les deuxièmes lundis du mois. Alors nous allons faire une petite pause musicale, un petit peu dure, vu que c'est une chanson de Zebda qui a une histoire particulière et qui s'appelle « Une vie de moins ». Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission Mode d'emploi. Et nous sommes en train d'écouter une interview d'Alex vis-à-vis d'Anna qui nous revient de Palestine.
Oui, alors, donc, on en était resté aux questions de pénurie. Alors, une question qui me brûle les lèvres, c'est les habitants de Gaza là-dedans, qu'est-ce qu'ils pensent, eux, à la fois du conflit, de la situation, de l'avenir ? C'est quoi l'état d'esprit des Gazaouis aujourd'hui ?
Alors, c'est un peu compliqué à dire, mais on va dire que avant la dernière guerre qui a lieu en novembre, fin 2012, la population était assez pessimiste. Enfin, il n'y avait pas vraiment d'espoir. Et des questionnements sur est-ce que la bande de Gaza va être rattachée au niveau de l'Égypte. On parlait aussi de 3 États et pas de 2 États. On parlait Gaza, Égypte, Cisjordanie, Jordanie et Israël. Plutôt des gens complètement désillusionnés, défaitistes, qui voient pas le bout. Après, c'est vrai qu'avec la dernière guerre, il y a eu comme un peu un élan d'espoir, même si, de fait, les gens savent très bien qu'il y a un rapport de force qui n'a pas changé, hein, qui est en faveur d'Israël. Quand même, le fait que le Hamas, avec les autres factions militaires sur place, aient répondu, aient tenu tête, qui ont obtenu un accord de cesser le feu en leur faveur, qui ont lancé des roquettes en Israël, a redonné de l'espoir à la population en disant « bon, même si on est opprimé, on n'a pas de liberté de mouvement, on n'a pas d'économie, on n'a pas de droit, on est bloqué là, on est quand même capable de quelque chose ». Donc la dernière guerre a été très symbolique, très importante au niveau des Gazaouis. Voilà, c'est ce que je pourrais dire. Après, depuis, je suis partie, mais ça a donné un peu un espoir.
Tu parles de trois États, mais est-ce que les Gazaouis se sentent palestiniens, arabes, Gazaouis ?
Oula, c'est une question un peu compliquée. Je pense que là où une des difficultés du conflit, c'est ces questions d'identité. Et à l'heure actuelle, on parle d'un peuple qui est divisé en interne. Si tu poses cette question à un Palestinien qui vit à Jérusalem et qui a des papiers d'identité donnés par Israël, qui lui permet de vivre en Israël, d'avoir accès à des hôpitaux israéliens, chose qu'un Gazaoui n'a pas accès, ou un Cisjordanien, il te répondra d'une manière différente. Donc on a des gens qui ont des droits différents selon l'endroit où ils vivent, donc soit des Palestiniens de Jérusalem, soit Cisjordanie ou Gaza. Du coup, l'identité, elle est segmentée. Et un exemple, par exemple, pendant la dernière guerre à Gaza, les Cisjordaniens, les Palestiniens de Cisjordanie, étaient beaucoup plus préoccupés à ce moment-là par les manifestations, les émeutes en Jordanie qui avaient lieu contre le roi, que de la guerre à Gaza.
D'accord.
Donc, un référendum s'impose pour départager les Gazaouis des Gazanons.
Jean-Marc ?
C'était Jean-Marc, oui.
Au hasard. Alors, tu as parlé de la guerre, et c'est très paradoxal la manière dont tu en as parlé. Tu as dit, bah, finalement, ça les a rendus optimistes. C'est étonnant, vu d'ici, d'entendre ça. C'est extraordinaire. Parce que quand même, ça a été très, très violent. On doit encore voir les marques. Et d'ailleurs, toi, si tu as travaillé là-bas, c'était un petit peu suite à cette guerre là-bas. Je voulais savoir, qu'est-ce qu'ils ont... En dehors de ce sursaut d'optimisme, qu'est-ce qu'ils en retirent ? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'ils en pensent par ailleurs ? Et est-ce qu'ils ont peur que ça recommence ?
Si tu veux, dans le schéma, enfin, dans la pensée des gens, c'est sur l'optimisme, c'est vraiment sur la question de comment s'est terminée cette dernière guerre, sur une note positive et d'optimisme. Après, la guerre est quelque chose qui est ancré dans leur vie. Depuis 50 ans, et tu parles à n'importe quel Gazaoui à l'heure actuelle, il te dit dans 2 ans ça reprend. Et enfin, là on parle de guerre, sauf que entre les périodes de guerre, moi sur les 3 ans où j'étais, ou même sur l'année dernière où j'ai été, on a eu 5 pics de violence où il y a des bombardements. Donc les bombardements, les conflits localisés ou les guerres, c'est quelque chose qui fait partie de leur quotidien, que tu retrouves du coup sur comme dans beaucoup d'autres pays, sur un non-investissement sur le futur, sur qu'est-ce que tu feras demain ? Non, demain, ça n'existe pas, je vis aujourd'hui. Voilà, je ne sais pas si ça répond vraiment à ta question, mais du coup, il n'y a pas d'espérance que le conflit cesse, en tout cas.
Si le conflit ne cesse pas, c'est qu'il n'est jamais interrompu. Mais vis-à-vis de l'opinion française, on dit toujours « Ah tiens, pour une fois qu'il y a une période un petit peu de paix là-bas, et c'est un Palestinien, un Gazaoui, qui relance par un bombardement, juste une roquette lancée. » Et c'est souvent très mal vu. Alors dans la presse, une certaine presse, c'est très 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 mal vu. On accuse même carrément les Gazaouis d'avoir relancé le combat. Alors que vis-à-vis de ce que tu nous dis, qui est une vision quand même un peu différente, largement différente de ce qu'on a dans la presse dominante, c'est bien le contraire. C'est qu'il y a le conflit continue, les peuples Gazaouis dépriment et subit. Et finalement, pour eux, c'est un combat très noble qui permet de faire ressortir un peu leur fierté individuelle. J'exagère un peu ?
Un peu plus compliqué que ça, je pense, mais... pour revenir sur le point sur lequel tu disais, sur qui commence, sur des pics de violence, etc., c'est assez schématique, en fait. tu peux avoir soit des raisons, des intérêts politiques au niveau du gouvernement d'Israël. Donc souvent, on a observé, par exemple, quand c'était Israël qui pouvait déclencher une attaque au niveau de la bande de Gaza, parce que soit il y avait un enjeu électoral derrière, ou parce qu'il y a beaucoup de mouvements contestataires sociaux, il y a beaucoup de problèmes sociaux en Israël. Et à partir du moment où la population manifeste et qu'il y a des grands mouvements, on a constaté que, du coup, il y avait un détournement de l'opinion avec un petit conflit localisé sur la bande de Gaza. Et d'autre part, après, effectivement, il y a des roquettes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, les roquettes, donc c'est artisanal, tombent dans le désert du Negev, il se passe rien. Là où il y aura une réplique israélienne, c'est à partir du moment où cette roquette aura fait des dégâts matériels et humains, surtout. C'est-à-dire que quand il y a des dégâts matériels, on va avoir un petit bombardement pas très grave, entre guillemets, si je puis me permettre, dans la bande de Gaza. Par contre, quand il y aura un soldat israélien qui a été blessé ou des civils touchés ou qui sont décédés, là, on va avoir des bombardements beaucoup plus sévères dans la bande de Gaza, près des populations civiles. Donc, j'ai envie de dire, c'est pas un côté ou l'autre qui commence, c'est un enjeu permanent en fonction des situations au niveau... Et la logique entre les affaires internes et pareil, hein, le Hamas doit aussi asseoir sa légitimité, qui est un combat au quotidien. Et à certains moments, quand la population n'est pas vraiment en faveur, un petit échange de missiles avec Israël, ça détourne l'attention. Donc voilà, je dirais que c'est un peu plus complexe que ça. Mais...
Et tu parles du Hamas, alors parce qu'on en parle beaucoup ici, du point de vue de la doxa en Occident, c'est un fauteur de guerre, c'est l'islam politique, c'est les méchants, quoi. La question, c'est, au-delà de ça, longtemps, le Hamas a été considéré comme un mouvement terroriste, et uniquement comme un mouvement terroriste. Aujourd'hui, ils sont au pouvoir à Gaza, ils sont en responsabilité. Alors, comment est-ce qu'ils gouvernent? Est-ce que, finalement, c'est un gouvernement comme un autre, ou est-ce qu'il y a une particularité du Hamas?
Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un gouvernement qui essaye d'asseoir sa légitimité, savoir que la population à Gaza, qui, voilà, avec l'autorité palestinienne, avec le Fatah auparavant, il y avait quand même un gouvernement laïque. Le Hamas a effectivement des intentions d'instaurer la charia, chose qu'ils ont du mal à faire au quotidien, parce que voilà, il y a une certaine population qui n'est pas en faveur. Du coup, c'est un peu délicat de te répondre dans le sens où il y a une volonté politique, très clairement, d'islamiser, que ça soit dans le quotidien et dans les affaires politiques. Après, t'as une frange de la population qui n'est pas d'accord, et du coup, des fois, tu peux avoir des lois qui sont passées ou des restrictions au niveau de la société, mais qui sont pas tenues. Qui n'arrivent pas à tenir sur le long terme parce que tu as une contestation. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est, en tout cas, l'effet de ce gouvernement, c'est ça a permis une frange de la population qui était beaucoup plus fondamentaliste ou beaucoup plus religieuse ou conservatrice de s'exprimer dans les lieux publics. Donc aujourd'hui, on a plutôt une forme de contrôle social qui se développe beaucoup plus à Gaza, qui n'était pas lieu auparavant. Donc si, par exemple, j'ai déjà rencontré des femmes qui sont musulmanes, pas forcément pratiquantes, et qui portaient pas le voile, et qui n'ont pas envie de porter le voile aujourd'hui, mais qui le font pas parce que le Hamas leur demande. Parce que la société, à l'heure actuelle, lui impose quelque part, parce qu'on va parler d'elle dans la rue, on la voit mal, donc elle me dit « je préfère me voiler pour pas avoir d'ennui ». Donc une forme de contrôle social. Et qui va à la mosquée le vendredi ? Maintenant, les mosquées sont... tous les imams ont été remplacés depuis le gouvernement du Hamas, donc avec des imams un peu plus radicaux. Et du coup, si tu décides d'aller à la mosquée le vendredi, c'est une forme, quelque part, d'allégeance un peu au parti qui est en place.
Et toujours sur le Hamas, on parle beaucoup, notamment en Cisjordanie, d'affaires de corruption. On dit que finalement, les grands héros de l'OLP, une fois qu'ils se retrouvent au pouvoir, ils sont comme les autres, ils essayent de récupérer le maximum d'argent. Et est-ce qu'il y a un peu le même phénomène à Gaza?
Alors, de ce qu'en disent les gens, c'est un peu moins... on va dire, d'un côté, les gens pensent qu'il y a une meilleure redistribution avec la masse depuis qu'ils sont au pouvoir. En termes, dès qu'il y a un conflit, une crise, le gouvernement se met en place, distribue des aides, etc. Donc les gens sont plus en faveur de ce que peut leur apporter le gouvernement. Après, je serais incapable de répondre sur la corruption. Par contre, ce qu'on constate, c'est un certain clientélisme. Et c'est-à-dire que ce qu'on entend dans la rue souvent, c'est cette personne-là, avant, il était précaire ou il était pauvre. Et puis, depuis que le Hamas est venu et qu'il est au parti, il a une belle maison, il a un 4x4. Mmh. Donc, voilà.
Oui, ça compte.
Vis-à-vis de France, encore une fois, le conflit, surtout, on parle vraiment de la bande de Gaza, donc c'est des populations excessivement réduites, un bout de territoire minuscule qui occupe une place dans les médias énorme, on le fait aussi dans cette émission, et on se posait la question il n'y a pas très longtemps de pourquoi est-ce que finalement ce conflit est aussi important. Alors évidemment, c'est un pays très étrange, hein, créé en 45 dans des conditions très particulières, mais des conflits aussi importants qui mettent en jeu des populations pareilles, c'est quand même assez important et bizarre finalement. Et une réflexion qu'on avait, c'était de dire, dans un sens, que c'était aussi le conflit, une zone de conflit assez direct, avec une toute petite frontière entre Gaza et Israël, entre le monde occidental, on va dire, dont fait partie Israël, et puis le monde du Proche-Orient, heureux, pauvre, avec des grandes difficultés de développement et même démocratiques. Et finalement, c'est un des rares cas où les deux populations sont directement en conflit l'une par rapport à l'autre. C'est quelque chose qu'on ressent quand on passe la frontière Gaza-Israël ?
Alors, je dirais que c'est... Ce qu'on peut ressentir, c'est... Enfin, moi, ce que je ressens à l'heure actuelle, c'est deux peuples qui se méconnaissent, qui se connaissent pas. C'est-à-dire que d'un côté, ça a un côté un peu schizophrène de travailler à Gaza, parce qu'on peut, une fois qu'on a les autorisations, sortir en 3 heures de l'autre côté. Donc, d'un côté, on va être à Gaza, par rapport à un milieu dont on a parlé, et puis 3 heures après, on peut être à Tel Aviv sur la plage. Donc, c'est assez bizarre. En Israël, soit les gens ne savent pas ce qui se passe. Ça m'est déjà arrivé de rencontrer des Israéliens qui arrivent au checkpoint de Gaza et qui disent « Oui, du coup, on aimerait bien rentrer aux militaires. » Les militaires, ils disent « Bah, vous avez une autorisation ?» Ils font une autorisation, pourquoi ?« Bah, parce que il y a que les humanitaires et les journalistes qui rentrent. » Donc, il y a vraiment une politique de désinformation au niveau d'Israël. Donc, il y a des gens qui ne savent pas ce qui se passe ou qui ont en tout cas une peur de ce qui se passe à Gaza ou en Cisjordanie. Enfin, vous parlez à un Israélien à Tel Aviv, il vous dit, mais si je vais en Cisjordanie, c'est un coupe-gorge. Alors que, rien à voir. Même à Jérusalem, prendre un taxi qui est conduit par un Israélien, il ne veut pas aller du côté Hamas parce qu'il a peur de se faire attaquer. Ce qui n'est absolument pas le cas. Donc il y a une sorte de peur qui est cultivée, une méconnaissance du côté israélien. Voilà, moi personnellement, en tant qu'humanitaire, si j'allais dans un bar un soir à Jérusalem et qu'on me demandait ce que je faisais, je disais que je bossais à Gaza, bon, bah, les gens, ils écourtaient la discussion, ils disaient au revoir. Donc ce qui ne facilite pas le dialogue, justement, dans ce genre de choses. Et du côté de Gaza, c'est un peu la même chose, où du coup, on est dans... être fort face à l'ennemi, et on inculque aux enfants depuis tout petit que l'ennemi c'est Israël. Donc on va pas essayer de chercher et de dire c'est notre droit de récupérer notre terre et que du coup les Israéliens ont pas le droit d'être là. Donc voilà, c'est dans les deux sens, on a un renforcement, enfin une conviction au niveau de la population de leur bon droit, sans un dialogue, une méconnaissance des cultures, alors que ce sont deux cultures qui a priori ont beaucoup de choses en commun, et ce qui est assez fascinant d'ailleurs, mais un dialogue qui n'est pas présent et qui peut expliquer en partie aussi ça.
Et qu'est-ce que les habitants de Gaza savent de ce qui se passe à l'extérieur ? Parce que c'est quand même d'être enfermé comme ça tout le temps, quelles informations filtrent ? Parce que toi, en plus, tu avais une position privilégiée, extérieure au conflit, ni israélienne ni palestinienne, humanitaire, obligée à la neutralité. donc a priori pas dans un camp en particulier. Qu'est-ce que les habitants de Gaza, eux, savent de ce qui se passe en Israël, de ce qui se passe dans le reste du monde, du regard qu'on porte sur eux à l'extérieur ?
Je dirais que la différence que j'ai pu noter, entre guillemets, c'est que les Gazaouis, la société palestinienne en général est très portée sur l'éducation. C'est un élément très, très important. Les gens tiennent à l'éducation. Et donc, en général, les gens sont très politisés à Gaza et sont très informés. Donc après, il y a beaucoup de médias. Le Hamas, il est pas sur la censure certaines choses, mais de manière générale, c'est très ouvert. Donc, ils ont accès à l'information et c'est quelque chose d'important. Donc, c'est un milieu très politisé comparativement en Israël où tu n'auras pas forcément tout le monde intéressé par ces problématiques-là.
Et pour terminer en lien avec ce thème, nous allons écouter Rockin' the Casbah des Clash, mais chanté par Rachid Tara. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3 pour l'émission Mode d'emploi animée cette semaine par des altermondialistes de l'association ATTAC et du journal Le Piaf. Et nous allons faire la chronique altermondialiste de Gaël sur les accords États-Unis-Europe.
Voilà, c'est le partenariat transatlantique pour le commerce et l'investissement. Alors pour l'instant, c'est juste un projet d'accord qui a été lancé le 13 février par Obama, Barroso, le président de la Commission, et Van Rompuy, le président du Conseil européen. Évidemment, ils n'ont pas eu cette idée tout seuls, comme très souvent dans l'Union européenne. L'idée leur a été soufflée de manière très insistante par le Transatlantic Business Dialogue, qui est un puissant lobby patronal euro-états-unien. Et ça fait en effet longtemps que les milieux d'affaires européens et états-uniens militent pour une grande zone de libre-échange transatlantique. Alors quand je dis militent, c'est pas avec des banderoles dans la rue, hein, c'est discrètement à Bruxelles. Et aujourd'hui, leurs vœux sont exaucés, ou presque, puisque les négociations qui commencent en juin vont durer à peu près 2 ans. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce projet ? On y trouve une série d'objectifs qui sont assez classiques pour un accord de libre-échange. Par exemple, la suppression des droits de douane sur les produits industriels et agricoles. Ces droits de douane sont actuellement d'environ 5,2% pour l'Union européenne en moyenne et de 3,5% pour les États-Unis. L'objectif, c'est de les amener à zéro. Un autre objectif, c'est l'ouverture du secteur des services. Pour les services publics, ouverture, ça signifie privatisation. Alors vous me direz, au point où on en est en Europe, on ne voit pas comment on pourrait privatiser plus les transports, l'énergie et les communications. Ok, mais une fois la libéralisation de ces services inscrite dans un accord international, eh bien ce serait encore plus difficile de restaurer des vrais services publics en Europe. Le projet prévoit également l'ouverture des marchés publics. Ouvrir un marché public, ça signifie que dès qu'on lancera un appel d'offres pour un marché public, toute entreprise de la zone Europe-États-Unis pourra candidater. Évidemment, ça limite la possibilité de privilégier l'emploi local dans les marchés publics. Enfin, dernier objectif qui est désormais assez classique dans les accords de libre-échange, c'est la protection des investissements. Protéger les investissements, avec beaucoup de guillemets, c'est permettre à une entreprise d'attaquer en justice un État si une nouvelle réglementation sociale, environnementale, réduit les profits qu'elle espérait en s'installant dans cet État. Il y a déjà une clause de ce genre dans l'ALENA, qui est l'accord de libre-échange entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. Et en vertu de cette clause, une entreprise aujourd'hui réclame 250 millions de dollars d'indemnisation au Canada suite à une loi du Canada qui interdit l'exploration des gaz de schiste dans la vallée du Saint-Laurent. Alors, il faut savoir que depuis quelques années, plusieurs pays révisent ce genre de clauses dans leurs accords de libre-échange parce qu'on se rend bien compte au final que ce genre de clause remet en cause les politiques publiques et la démocratie. Tous ces objectifs de l'accord, la suppression des droits de douane, la libéralisation des services, l'ouverture des marchés publics, la protection des investissements, c'est des choses assez courantes dans tous les accords de libre-échange. La nouveauté de cet accord, c'est la réduction de ce qu'on appelle les obstacles non tarifaires au commerce. Ces obstacles non tarifaires, ce sont les différences de normes et de réglementations techniques entre l'Europe et les États-Unis. Pour la Commission européenne, ces obstacles, c'est même le premier obstacle aux échanges commerciaux transatlantiques. Par exemple, si vous essayez de vendre des appareils électriques qui marchent aux 220 volts dans un pays où le courant est à 110 volts, évidemment, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est qu'avec les normes, on peut toucher au mode de vie de chacun. Par exemple, les normes alimentaires des États-Unis, ce sont les OGM, ou les poulets lavés à l'eau de Javel. Et cette convergence de normes, c'est donc une nouvelle étape de la mondialisation. Une étape sans doute plus intrusive que les précédentes et sûrement beaucoup plus autoritaire puisque jusqu'à présent, chacun était libre d'adopter ou non le mode de vie US. Alors que désormais, avec la convergence des normes, eh bien, ces normes US risquent de s'imposer à chacun par la loi.
Et à cette chronique s'ajoute une petite chronique de Magali sur les Kurdes.
Oui, alors... Vous savez que le conflit armé qui oppose les Kurdes en Turquie au pouvoir central d'Ankara semble enfin trouver une issue, puisque Öcalan, depuis sa prison, son île prison, a demandé aux Kurdes de déposer les armes et Erdogan s'engage à ouvrir de vraies négociations.
Alors Öcalan, c'est le leader du parti kurde historique.
Exactement. Öcalan, c'est le leader du Parti communiste du Kurdistan, le PKK, qui est un parti indépendantiste. Vous savez qu'en Turquie, il y a 12 à 15 millions de Kurdes et que Ankara a longtemps interdit à la fois la pratique de la langue kurde et même la prononciation du mot kurde sous peine de poursuite. Donc, évidemment, ce geste arrive dans un contexte particulier. Hein. Le geste d'Erdogan, il n'est pas complètement désintéressé. Erdogan doit quitter son poste en 2015. Il aimerait voir la constitution réformée afin de renforcer les pouvoirs du président puisqu'il est aujourd'hui Premier ministre et il brigue les fonctions de président en 2014 lors des prochaines élections. Donc évidemment, dans ce contexte, l'appui de 36 députés au Parlement turc n'est pas à négliger. Mais au-delà de ces intérêts politiques, c'est quand même un geste historique qui donne espoir de mettre fin à un conflit vieux de 29 ans et qui a fait 45 000 morts.
C'est une petite pointe de positif qui termine la partie chronique de notre émission. Et nous attaquons l'agenda, mais avant l'agenda, une petite annonce.
Une offre d'emploi, vous êtes force de contact, votre carnet d'adresses est aussi rempli que votre agenda, il concerne les milieux politiques, policiers, judiciaires, boursiers, banquiers, industriels et bien sûr les médias. Vos contacts quadrillent la France, mais aussi nombre de pays étrangers. Vous êtes force de négociation gastronomique, vous êtes aussi à l'aise dans les pots de vin que dans les dessous de table. Vous êtes force de séduction, vous savez amener les femmes à vous révéler des informations secrètes entre deux ébats de traverse. Vous êtes force de conviction, vous êtes passé maître dans l'art du chantage. Et vous êtes force de frappe. Vous savez intimider les récalcitrants, au besoin en tête à tête. Vous savez punir les balances, les traîtres, au besoin définitivement. Vous n'avez aucun scrupule, vous n'avez aucun état d'âme, vous n'avez aucun remords, vous n'avez aucune pitié, aucune compassion, aucune faiblesse. Vous êtes intraitable, inébranlable, inattaquable. Vous considérez vos semblables comme des pions. La vie comme une partie d'échecs, vous mettez les autres en échec. Votre charisme est impressionnant, irrésistible. Vous êtes l'homme de la situation, vous êtes l'homme qu'il nous faut. Vite! Rejoignez-nous. Vite, rejoignez la direction de notre parti.
Bien dit. Alors, l'agenda du mois d'avril, qui commence par Alex, pour une date le samedi 6 avril, c'est-à-dire demain.
Exactement, samedi 6 avril.
C'est demain, mais non, c'est une date dépassée, ça. On est le 10 aujourd'hui.
Oui, donc hein, samedi 6 avril, je vous signale qu'il y avait un compte-rendu sur le FSM de Tunis. Qui avait lieu à la Pierre du Marais. Donc je n'y étais pas, hein, je ne peux pas vous en parler. Mais on va peut-être passer à la suite de l'agenda, du coup.
Bien sûr. Donc c'est le festival L'Engagement Citoyen, à partir du 1er avril et pendant un mois, donc ça dure encore. Il y aura des films et des documentaires en présence du réalisateur pour des débats, des ateliers pratiques, des jeux participatifs, des spectacles, des dégustations. C'est à Montreuil, au centre Pablo Picasso, 8 places du 14 juillet.
Oui, et soutenez votre radio préférée, la radio FPP, puisque les émissions Au fond, près du radiateur et Dub on top vous convient à une soirée de soutien à la radio FPP 106.3 le vendredi 12 avril à partir de 21h au Transfo.
Le samedi 13 avril, il y a une Gratiféria, un marché gratos, fête et débat sur l'économie du don, qui a lieu place de la Bourse, au métro Bourse, de 14h à 17h avec des échanges et des débats. Aussi, appel aux musiciens, chanteurs, clowns, jongleurs, poètes, mimes, tout cela est appelé par démocratie réelle maintenant, c'est-à-dire ce qu'on a appelé les indignés.
Et alors, donc dimanche 21 avril à 16h30 au bar-restaurant Le Lieu dit, 6 rue Sorbier, Paris 20e, il y aura un truc sur Notre-Dame-des-Landes, l'opération Astérix, c'est-à-dire une approche globale du conflit de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, enjeux financiers, techniques, impact environnemental, composantes de la résistance au projet, arrivée des zadistes, répression policière, légitimité de la lutte citoyenne et démocratie. C'est une projection débat. Et tous les renseignements complémentaires sont sur www.leliedit.com.
À propos du système de santé et l'hôpital public, un débat avec le professeur Grimaldi, jeudi 18 avril à 20h30, à la Maison du citoyen de la vie associative, 16 rue du Révérend Père Aubry, à Fontenay-sous-Bois.
Un débat sur la réforme bancaire avec Dominique Plion, économiste. C'est le mardi 23 avril à 20h au café associatif La Commune, 3 rue d'Aligre, Paris 12e, et c'est organisé par Attac.
Et nous le peut pas non plus le colloque « Faut-il rembourser ou annuler la dette ?» avec Éric Toussaint, Jean-Marie Haribet, Carlos Vinograd, etc. Le mercredi 24 avril à 9h30 à l'Université d'Évry-Val-d'Essonne, amphi 300.
Si tous ces débats vous semblent un peu rébarbatifs, mais que vous voulez quand même assister à de la formation altermondialiste, il y a Espace de Reuilly le 30 avril, la soirée Attaque France. Un an après, c'est l'impasse, construisons nos alternatives. Avec 12 invités, 13 propositions concrètes pour changer de cap de 18h15 à 23h à l'Espace Reuilly, 21 rue Hénard, dans le 12e arrondissement de Paris. Organisé par Attaque France en partenariat avec Mediapart et les partenaires de l'Altersommet. Trois temps de propositions, social de la résistance à l'offensive, comment fait-on ? Écologie des incantations à la transition, comment fait-on ? De Tunis à Athènes, le printemps des mouvements sociaux, comment fait-on ? La soirée sera conviviale et festive autour de grandes tables de banquet. Une buvette bio sera accessible tout au long de la soirée. Des petites assiettes de produits bio seront servies à toutes celles et ceux qui le souhaitent au cours d'un intermède animé par la Parisienne Libérée. Avec cette dernière annonce, nous terminons l'émission et nous remercions notre invité Anna, Patrick, Gaël, Magali, Alex, Jean-Marc à distance et à la technique Sylvain et Claude. Pour terminer, toujours en lien avec notre thème sur la Palestine, nous allons écouter Robert Wyatt, Where Are They Now, avec en musicien un saxophoniste israélien Haboud Hashem et des rappeurs palestiniens MC Shadia Mansour.